va le vent sur les reins des passantes et des passants l'hiver. Ainsi vont les si et les mais pourtant, ainsi va la vie comme un invité mystère.
Irène Finkel, bonjour, bienvenue à tous dans l'émission Ainsi va la vie. Aujourd'hui, c'est avec bonheur que je reçois Pierre Carayon.
Bonjour Irène.
Bonjour Irène. Pierre. Pierre, vous êtes né le 31 juillet 1950 dans la chambre numéro 8, c'est très précis, de l'Hôtel de France à Saint-Cernin-sur-Rance, hôtel de vos parents, dans le sud de l'Aveyron. C'est un village qui est situé à peu près à 5 km du Tarn. Après, c'est à Saint-Affrique, à quelques kilomètres de chez vous, que vous allez aller au lycée et d'ailleurs décrocher le bac avec mention « très bien ». Je pourrais continuer ainsi jusqu'à la reprise de l'auberge familiale, mais je préfère, Pierre, vous donner tout de suite la parole avec cette première question. Racontez-nous, Pierre, quel petit garçon vous avez été.
Oh, vous savez, j'étais un petit garçon ordinaire qui a eu la chance de vivre dans une famille très unie. Et malgré l'occupation de mes parents qui étaient aubergistes, j'aime bien ce mot, je préfère aubergiste plutôt qu'hôtelier parce que je trouve que dans ce mot, il y a pas mal de choses qui sont réunies. Et c'est ma grand-mère qui fut en charge de mon éducation, non pas parce que mes parents me dédaignaient ou m'oubliaient, surtout pas, ils m'ont élevé avec beaucoup d'amour. Et je savais mesurer les moments qu'ils passaient avec moi, parce que je savais que quand ils n'étaient pas avec moi, c'était quelque part pour moi, où ils étaient ailleurs, à leur travail. Hein, c'était... Et donc, ma jeunesse s'est bien passée avec...
Donc, si vous aviez déjà cette notion, vous aviez déjà donc la notion, vous aviez appris la valeur du travail pour déjà avoir la notion de vous dire « mes parents ne sont pas avec moi parce qu'ils travaillent pour moi ».
Absolument. Ça, je crois
c'est quelque chose qui vous a été inculqué très rapidement.
Oui, et puis je vous rappelle que je suis Aveyronnais. Alors, excusez-moi de le dire, avec beaucoup de prétention, mais un Aveyronnais, c'est quand même quelqu'un qui a une certaine... qui est déjà, si vous voulez, destiné à travailler. Voilà.
Est-ce que vous êtes fils unique, Pierre ?
Pardon ?
Vous êtes fils unique ?
Et non, j'ai un frère qui a 11 ans de plus que moi, Jean-Paul, que j'ai la chance d'avoir encore dans ce monde. Et c'est mon frère qui devait prendre la succession de l'hôtel de mes parents. Enfin, c'était plus ou moins prévu. Et c'est pour ça que je n'ai pas eu une formation hôtelière très, très complète.
Mais ça, on y reviendra, excusez-moi, on y reviendra. Mais 11 ans d'écart, là, entre les deux frères, vous avez pratiquement été élevé comme un fils unique, alors ?
Absolument, tout à fait. Et ma grand-mère m'a beaucoup bichonné. Elle m'a donné tout l'amour que je devais recevoir à cet âge et je l'en remercie.
Il y a une raison particulière à ces 11 ans d'écart ?
Oui, mon papa était né en 1908 et il a été mobilisé en 1939, hein, pour faire la guerre. Et il a été pris dans la fameuse poche de Dunkerque. Hein, c'est-à-dire que l'armée française a été, je dirais, poussée jusqu'à la Manche. Et certains ont eu la chance de partir en Angleterre avec des bateaux de fortune. Et puis d'autres sont restés là. C'était le cas de mon papa. Et il n'a revu sa femme, c'est-à-dire ma maman, que 3 ans après, puisqu'il a été prisonnier, fait prisonnier pendant 3 ans en Allemagne. Et je voudrais juste dire, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais que les décorations que je porte, je les ai dédiées à mon papa. Parce que lui, il n'en avait aucune décoration. Et je peux vous dire qu'il les méritait beaucoup plus que moi. Et la première, mon premier réflexe, lorsque en 2010 j'ai eu la Légion d'honneur, ça a été d'aller au cimetière, de m'incliner devant la tombe de mes parents et de leur dire avec beaucoup de fierté, quelque part, que je leur dédiais cette décoration.
C'est tout à votre honneur. Donc votre frère est né en 39 ?
Absolument.
39. Votre papa ne l'a pas vu à la naissance ?
Non, quand il est revenu, il s'est évadé. Il s'est évadé, le service, enfin il était dans une ferme, prisonnier, mais quand même au service d'une fermière, là. Et il a saisi une occasion pour s'évader. Il est arrivé chez moi à Saint-Cernin et ma maman lui a dit, et bon, après lui avoir bien entendu souhaité toute la bienvenue qu'il méritait, lui a dit « Écoute, on va aller chercher le fiston à l'école ». Et avec son bras et son doigt, ma maman lui a fait voir son fils, qui avait donc 3 ans, dans la cour de récréation de l'école.
Donc vous avez été élevé un petit peu chacun comme des garçons uniques.
Absolument, tout à fait.
Tout en ayant bien évidemment cette fraternité qui se doit entre frères, on n'en doute pas. Ouais. Alors, cette enfance, comment se passe-t-elle au milieu d'une famille d'aubergistes ? Je sais que le mot aubergiste, c'est un mot qui vous tient à cœur.
Ah oui, ça me tient beaucoup à cœur parce que je trouve que ça résume absolument toutes les, j'allais dire, les fonctions de notre métier, l'accueil, tout ce qui touche à la restauration et à l'hôtellerie. Et nous avions un hôtel, mes parents plutôt, avaient un hôtel de 19 chambres. Donc il n'était pas question que nous ayons chacun notre chambre. Autrement dit...
Les chambres étant réservées aux clients.
Les chambres étant réservées aux clients dans un souci de rentabilité.
Bien sûr.
Et je partageais la chambre avec ma grand-mère, figurez-vous. Je partageais la chambre avec ma grand-mère.
La maman de votre maman ?
La maman de mon papa.
D'accord. Hein.
Que je vous dise aussi qu'à l'époque, c'était chose commune, les enfants se mariaient dans la même profession. Je m'explique. Un jour, ma grand-mère a dit à mon papa, « Tu sais, Ernest, tu mets tes belles chaussures, tu prends la C4 qui était la voiture, et tu vas aller manger dans un restaurant qui était situé à 30 km de chez moi, à Camarès exactement, à Ouyres. » Et tu verras, il y a une jeune fille qui va te servir, qui va être très gentille avec toi, etc. Et donc mon père a bien entendu respecté
la demande de sa maman.
La demande de sa maman, il est allé manger là. Et figurez-vous que pratiquement un mois après, ils se sont mariés.
Et c'était votre maman.
C'était ma maman et ça a duré pendant, écoutez, je ne veux pas dire de bêtises, mais ça a duré pendant près de 60 ans. Hein. Donc c'est un record. Alors, moi, le jeudi, qu'est-ce que je faisais ? Je regardais, les femmes de chambre faisaient les lits, hein, et elles ouvraient les portes des chambres. Et moi, pour me distraire, je ramassais tout ce que je pouvais ramasser. Et je suis tombé, là je vais faire une petite confession, mais je la fais parce qu'elle est sincère, et puis... Je trouve que c'est important d'en parler, surtout pour le moment, avec tout ce qui est l'actualité brûlante. Je ramassais toutes les revues que je voyais. Alors, je vous rappelle que c'est une époque où il n'y avait pas la télé dans les chambres, où les VRP, on appelait ça les VRP, ça veut dire...
Les commerciaux.
Les commerciaux. Hein. Et donc, se distrayaient comme ils pouvaient. Et il y avait une revue qui était très prisée par ces gens-là, c'était Lui. Hein, Lui. Alors, évidemment, c'était des dames...
Dénudées,
des poitrines dénudées. Et l'adolescent que j'étais, qui était en pleine découverte, si j'ose dire, si vous voyez ce que je veux dire, un jour... Éveil des sens a été, ce qui devait arriver, a été surpris par sa grand-mère en train de faire des choses que seul monsieur le curé a eu le devoir de m'expliquer que c'était très grave, que j'allais devenir sourd, que c'était pas des choses à faire, etc., etc. Je dis ça parce que je crois que...
Enfin, c'était très con de sa part, excusez-moi, là, je fais une parenthèse que je ne devrais peut-être pas faire, parce que ça n'engage que moi, bien sûr, mais un curé qui explique à un adolescent que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, alors que c'est la nature, tout simplement. Et qu'est-ce qu'il vous a dit d'autre ? Que ça allait vous tuer ? Que ça allait... Qu'est-ce qu'il vous a dit ?
Écoutez, qu'il ne fallait pas le faire, et il m'a condamné, si j'ose dire, à aller servir la messe du matin à 7h pendant un mois. Je me suis levé à 7h du matin pour aller servir la messe. Et quand vous employez le mot de con, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et tout ce qui se passe à l'heure actuelle prouve qu'il est beaucoup mieux d'avoir une certaine franchise, surtout avec mes petits-enfants. Moi, quand mes petits-enfants, si un jour, ils me posent des questions...
C'est incroyable. Je trouve ça complètement incroyable qu'on puisse dire ça à un petit garçon. Vous en parlez aujourd'hui. Alors, on l'a dit, vous êtes né en 1950, vous avez donc 71 ans. Ça prouve bien que si vous en parlez 60 ans après, que c'est quelque chose qui vous a profondément marqué.
Absolument.
Je trouve que c'est ahurissant. J'ai pas d'autres mots.
C'est exact, et je voudrais simplement dire que si mes petits-enfants un jour se confient à leur papou, puisqu'ils m'appellent papou et qu'ils
c'est
me
mignon.
Demandent des choses comme ça, je saurais quoi leur répondre. Et je crois que c'est très grave d'entretenir cette espèce de tabou qui est complètement démodé.
Mais alors, on parle, vous évoquez la religion à travers ça. Justement, quelle a été votre éducation religieuse ? Donc, on a bien compris que vous aviez été élevé donc avec vos parents, votre grand-mère, qui était toute cette famille était très catholique, très croyante.
Très croyante. C'est des gens qui, pour vous dire, avaient le sens de la participation, puisque à la fin de la saison, au mois de septembre. Au mois d'octobre exactement, il y avait à Lourdes chaque année, je crois que ça dure toujours d'ailleurs, le pèlerinage du rosaire. Et mes parents qui, un peu pour se racheter, parce qu'il n'était pas question d'aller à la messe le dimanche, étant donné que le dimanche c'était le jour de la semaine où il y avait le plus de monde au restaurant et à l'hôtel, les week-ends, donc ils emportaient avec eux, si j'ose dire, dans une vieille 203 commerciale, il n'y avait pas de ceinture de sécurité, on pouvait être 4 à l'arrière et 3 devant. Tout le personnel de l'hôtel, tout le personnel de l'hôtel, on allait à Lourdes, moi-même je me rappelle, on allait en pèlerinage et là bien entendu c'était un petit peu pour racheter, je ne sais pas ce qu'ils avaient racheté parce que c'était de très braves gens qui ne faisaient que de bonnes choses.
Votre famille vous laissait une certaine liberté enfant dans votre village ?
Tout à fait. Il suffisait que je dise où j'étais, puisque mes parents, bien entendu, avaient cette protection nécessaire. Mais non, je n'avais aucune contrainte particulière.
Vous avez été à l'école du village ?
Oui, bien sûr.
Jusqu'au CM2 ?
Exactement, oui, jusqu'au CM2. Puis après, je suis allé à Sainte-Afrique.
Mais comment ça se passait ? Vous étiez interne ?
J'étais interne. Je vais vous dire.
Mais ça n'a pas été trop dur parce que l'internat a 11 ans, si j'ai bien compris.
Oui, tout à fait. Et
quand on est dans une famille hyper protégée comme ça, c'est pas trop difficile le changement de se retrouver après toute la semaine dans un internat. Alors, deux garçons, j'imagine, en plus, à l'âge que vous avez, ce n'était certainement pas mixte.
Non, c'était pas mixte et c'était très dur. Et j'ai appris des choses. Mes parents m'avaient mis dans un établissement où le directeur était un cousin.
Donc surveillé d'autant plus.
Surveillé d'autant plus, mais je pensais que c'était pour plutôt une faveur pour moi. J'ai voulu faire le malin un jour, certainement. J'ai été collé pendant une semaine et je me rappellerai toute ma vie de cette séance chez le directeur où j'ai été convoqué en me disant, tu sais, Pichou, en parlant... pas toi, tes parents Ernest et Rose t'ont mis ici pour que je te surveille, c'est ce que je fais. Alors la prochaine fois que tu fais le malin, tu auras affaire à moi. Voilà. Donc ça s'est retourné un petit peu comme moi.
Vous aimiez la scolarité ? L'école était quelque chose qui vous plaisait ? Apprendre ?
Oui, c'était quelque chose que j'ai fait naturellement. J'ai eu la chance d'être un bon élève. Mathématiques, non, mais j'ai toujours aimé les lettres. Et peut-être qu'aujourd'hui, en reprenant l'écriture,
bien sûr.
Il y a quelque chose qui revient.
Enfant déjà, on le verra tout au long de l'émission, que l'amitié est quelque chose de je ne vais même pas dire primordial, pour vous, vital, je crois que c'est plus
absolument.
Le mot.
Oui, c'est vrai.
L'amitié est quelque chose de vital. C'était comme ça déjà, enfant ?
Oui, j'ai toujours eu d'excellents amis et pour revenir à cet épisode, je peux vous dire que quand mes copains d'alors ont appris que j'étais parent avec le directeur, ils m'ont cherché quelques petits ennuis. Et je leur ai expliqué que je n'abuserai pas de cette chose-là. Et ils ont beaucoup apprécié. Et j'ai encore des gens que je fréquente régulièrement qui se souviennent de ces moments.
Comment était le petit garçon, Pierre ? Est-ce que vous étiez quelqu'un de sportif ? Est-ce que vous étiez un rêveur ?
Oui, j'étais sportif et je le suis moins, bien entendu, à mon âge. Mais je vais vous raconter une anecdote. Et là, je n'entre pas dans un domaine politique parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais pratiqué. Mais j'étais capitaine de l'équipe de foot du collège. Et en face, à Sainte-Afrique, il y avait un monsieur qui est bien connu aujourd'hui, puisqu'il est maire de Béziers, qui s'appelait Robert Ménard. Et nous avions, pas tous les jeudis, mais très souvent l'habitude de nous rencontrer. Quand je dis rencontrer, c'était assez viril, puisque c'était pour des coupes de l'Aveyron, etc., que j'ai eu la chance de gagner et que Robert a plus ou moins perdu, puisqu'il ne peut pas y avoir de vainqueur. Et je dois dire que j'ai beaucoup de souvenirs avec Robert. J'ai eu la chance de le rencontrer. Et j'ai des anecdotes avec lui tout à fait remarquables. Bien qu'il ait été viré, je le dis, et il ne m'en voudra pas puisqu'il le sait, il ait été viré de Saint-Gabriel, puisqu'il était à Saint-Gabriel et moi j'étais au collège. C'est un ami qui, toute politique mise à part, est vraiment honnête et sincère.
Et là, vous parlez effectivement, comme vous venez de le préciser, non pas politiquement parlant, mais absolument, amicalement parlant.
Tout à fait, tout à fait.
Et donc une amitié qui remonte à vos jeunes années.
Oui, absolument, absolument.
Le sport, vous l'avez continué, donc en l'occurrence le foot, vous l'avez continué toute votre vie ?
Oui, j'ai fait du ski, bien entendu, dans les Pyrénées, à Saint-Lary-Soulan, à l'époque. C'est là où j'ai trouvé le nom de ma discothèque future qui s'appelait La Descente à Saint-Lary-Soulan. Et après, je me suis mis au vélo. Alors aujourd'hui, bien entendu, ma silhouette ne fait pas augurer que j'étais un grand sportif. Mais heureusement que j'ai fait du vélo parce que je serais beaucoup plus épais que ce que je suis encore.
Parce que vous êtes un bon vivant et on le verra dans la seconde partie de l'émission. Et que vous aimez bien manger.
Ah, tout à fait, tout à fait.
C'est quelque chose d'important et c'est quelque chose qui va avec l'amitié.
Absolument. Vous savez, la table est un accélérateur de plaisir. La table, c'est un moment convivial. D'abord, on ne s'ennuie jamais à table. Hein. Et tous les éléments de la vie... Vous savez, nous, restaurateurs, excusez-moi de la comparaison que je fais, mais on est un petit peu comme des prostituées. On est on provoque le plaisir, quelque part. Hein, et sans risque, enfin sans risque, à condition de ne pas en abuser, bien entendu, modérément. Mais c'est vrai que j'ai fait un métier où les fins de repas sont souvent tout à fait intéressantes parce qu'elles reflètent vraiment un bon moment de la vie.
Alors, on l'a dit en tout début d'émission, vos parents ont beaucoup, beaucoup travaillé pendant que vous étiez enfant et c'est pour ça que c'est votre grand-mère qui s'est pas mal occupée de votre éducation. Est-ce que vous avez quand même réussi avec vos parents, enfants, à voyager ?
Oui, oui, tout à fait. Avec mes parents, pas trop souvent, parce que malheureusement, il n'y avait pas de fermeture annuelle très précise. Mais par la suite, j'ai rattrapé un petit peu la chose avec mon épouse. On a eu la chance de voyager un petit peu.
Mais donc adulte, pas enfant ?
Adulte, pas enfant, non, non, pas enfant.
Quand vous étiez adolescent, vous aimiez la musique ?
J'adorais les Beatles, il y avait deux clans, vous savez, il y avait les Beatles, puis toute la musique de l'époque, c'était les 30 glorieuses, hein, on a vécu une époque formidable. Il n'y avait pas de sida, hein, il y avait le plein emploi. Il y avait...
Tout était facile.
Tout était facile.
Pas une légende, tout était facile.
Bah, écoutez, tout était facile dans la mesure où il fallait jouer le jeu quand même. Hein, parce que, évidemment, si vous ne foutiez rien à l'école, vous ne pouvez pas avoir de bonnes notes. Mais je trouve que par rapport à aujourd'hui, il y avait quand même des choses qui étaient beaucoup plus légères au niveau. Il n'y avait pas le problème qu'on rencontre aujourd'hui dans les banlieues. Encore une fois, je ne veux pas parler politique, mais il y avait une certaine, je dirais, beaucoup plus de facilité que maintenant.
Et de sécurité ?
Et de sécurité aussi, c'est sûr. Surtout dans l'Aveyron, on n'a pas trop de problèmes à ce niveau-là.
On parlait politique chez vous ?
Oui, oui, on parlait politique parce que mon père était quelqu'un qui avait subi la guerre et il faisait tout pour essayer de rassembler les gens. Mon frère n'a pas fait la guerre d'Algérie, il aurait dû la faire, mais il ne l'a pas faite. Moi-même, j'ai été protégé puisque mon service militaire a été vite fait. Mais c'était une famille qui prêchait la paix plutôt que la discorde.
Le fait de ne pas avoir fait l'armée, c'est quelque chose qui vous aimeriez... Avec le recul, vous vous dites que c'est bien de ne pas l'avoir fait. Vous auriez aimé la faire.
Alors... Sur le moment, je ne vais pas mentir, je vais dire que ça m'a bien arrangé parce que j'étais en plein dans mes études. Là, c'était à l'université, hein, une fois que j'étais à Toulouse. Donc, ça m'a bien arrangé. C'est le président Chirac qui a aboli le service militaire. Dieu sait que mes idées, chacun a les siennes, hein, mais bon, je suis certainement de la famille gaulliste et donc chiracien. J'ai toujours voté pour cet homme que j'ai toujours beaucoup aimé et que j'ai connu aussi, que j'avais comme client. Mais surtout, je pense que pour répondre à votre question, il se passait tout un tas de choses au service militaire. La première des choses, c'était l'esprit de respect par rapport aux autres. Hein. Quelqu'un qui faisait le malin, s'il était obligé par un caporal-chef ou etc. D'aller gratter les toilettes pendant une matinée, après il faisait moins le malin. Vous voyez, il y avait ça pouvait éventuellement servir de canaliser les excès, etc. Et surtout, je pense qu'on apprenait le respect. Moi, le respect, je crois que je l'ai appris ailleurs. Mais c'est pour ça que quelque part, je regrette de ne pas avoir fait le service militaire, c'est sûr.
Je vais passer très très vite, mais vous avez donc eu votre bac avec mention très bien.
Oui.
Bac littéraire ?
Bac littéraire, oui. Oui.
Vous aviez, à cette époque-là, vous rêviez de quel métier ?
Alors, écoutez, je vous l'ai dit, il y avait l'incertitude de mon frère qui aurait pu prendre l'affaire. Bon, on s'est vite aperçu qu'il n'était pas fait pour ces choses-là. Et moi, je me suis retrouvé dans l'obligation non pas prendre la suite, je ne l'ai pas fait parce que j'ai été forcé, mais parce que je me suis vite rendu compte que tout ce qui aboutissait à l'enseignement ne me plaisait pas.
Oui, parce que vous avez fait en sorte de vous avez fait des études pour devenir
prof d'anglais.
Prof d'anglais, donc oui. vous avez étudié.
Ça a été très court pour moi. Je ne parle c'est pas des études.
Oui, mais oui, de l'enseignement, de l'expérience professionnelle. Ça ne vous a pas plu du tout ?
Non, non.
Et pourtant, vous aimez transmettre, donc c'est assez curieux.
Oui, mais j'ai fait un métier où j'ai transmis aussi. Bon, puisque en dehors de la Légion d'honneur, je suis très fier d'arborer les palmes académiques, puisque vous savez que j'ai formé dans mon métier plusieurs stagiaires et plusieurs élèves. Mon dernier livre a été préfacé par Cyril Lignac, qui a mis, je crois, à un certain moment de sa préface, « Merci Pierre pour tout ce que tu as apporté à nos métiers ». Donc pour moi, c'est un beau compliment. Et Dieu sait que si je n'ai pas enseigné directement dans l'éducation nationale, je me suis, je crois, largement rattrapé dans mon métier d'aubergiste.
Justement, votre métier d'aubergiste, on va découvrir cela dans notre deuxième partie d'émission. Mais tout de suite, je vous propose une première pause musicale. Alors, vous avez fait le choix de nous faire écouter une chanson de Jean Ferrat intitulée « Que c'est bon la vie ». Est-il utile de demander pourquoi ce choix ?
Mais écoutez, je crois que nous tous, nous avons énormément souffert après cette pandémie mondiale de pas mal de privations. Et que quand on voit aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, où nous nous parlons, que les choses vont s'améliorer au niveau sanitaire et peut-être au niveau économique aussi, je crois qu'il ne faut pas bouder son plaisir et de se dire que oui, la vie, c'est bon.
On écoute.
Le vent dans tes cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà roux, et son cri par-dessus tout, que c'est beau la vie. Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai cru trop vite, a jamais perdu pour moi. Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, et surtout pouvoir chanter, que c'est beau la vie. Le jazz ouvert dans la nuit, sa trompette qui nous suit dans une rue de Paris. Que c'est beau, c'est beau la vie. La rouge fleur éclatée d'un néon qui fait trembler nos deux ombres étonnées. Que c'est beau la vie. Tout ce que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné, aujourd'hui me monte aux lèvres en cette fin de journée. Pouvoir encore partager ma jeunesse, mes idées, avec l'amour retrouvé. Que c'est beau la vie. Pouvoir encore te parler, pouvoir encore t'embrasser, te le dire et le chanter. Oui, c'est beau la vie.
Merci, merci Pierre pour ce choix. C'est vrai que c'est un choix qu'on ne me fait pas souvent sur l'émission, Jean Ferrat, et c'est toujours bien agréable de le découvrir pour les plus jeunes et de le réécouter pour nous, pour les plus anciens. Alors, on a donc dit que vous aviez eu votre bac littéraire avec mention très bien. Vous avez donc fait une licence d'anglais à Toulouse. Vous étiez à la faculté à Toulouse.
Absolument. J'ai connu la rue des Lois, hein, l'Arsenal, le quartier de l'Arsenal, avec notre quartier général chez Tonton. Hein, chez Tonton
au Pastis-au-Maître.
Pastis-au-Maître, le pont Saint-Pierre, etc.
Quoi, rien n'a changé depuis, hein, puisque les étudiants de l'Arsenal, et d'ailleurs, continuent à aller... Chez Tonton, c'est plus que légendaire.
Une institution.
Voilà, c'est le mot que je cherchais. Merci Pierre, c'est une institution toulousaine, absolument.
Et j'ai vécu le déménagement, puis nous avons déménagé au Mirail. Après.
Oui, pour les langues, effectivement.
Pour les langues, oui.
Alors, vous avez enseigné une toute petite année. Est-ce que c'est à Toulouse que vous avez enseigné ?
Non. C'était dans un endroit qui est... dont je ne veux pas parler parce que ça n'a pas été une réussite pour moi.
C'est quelque chose, on le passe très vite. Vous avez passé plusieurs mois en tant que professeur et que ce n'est pas quelque chose qui vous a...
Non.
Alors vous avez eu cette chance parce que ce n'est pas quelque chose qui vous a convenu, mais vous avez pu, et on va le voir tout de suite, faire autre chose de votre longue vie si remplie et si riche. Donc c'est très peu de temps après que vous reprenez l'auberge familiale.
Oui, en 75, en 1975.
Mais entre-temps, je sais que vous êtes parti à Paris, une année chez Maxime. Alors racontez-nous cette période parisienne.
Alors, j'ai eu un gros problème à résoudre, c'est que je n'avais aucune formation dans l'hôtellerie, alors que mes deux enfants, ça c'est une parenthèse, mes deux enfants ont fait l'école hôtelière, malheureusement...
Deux de vos trois enfants, parce qu'on le précise, vous avez trois enfants.
Hein. Oui. Et ils n'ont pas voulu me succéder, bon, c'est comme ça, on n'en parle plus, ça m'a fait beaucoup de mal, mais j'accepte tout à fait, on ne force pas quelqu'un.
Bien entendu. Hein.
Et donc, j'ai été obligé... de rattraper en quelque sorte ce retard de formation que j'avais pour ce métier qui en demande beaucoup, surtout en cuisine. Et donc mon père m'a pistonné, puisque vous savez qu'il y a une diaspora véronaise assez importante à Paris, n'ayons pas peur des mots, c'est véritablement pas une mafia, mais une diaspora. C'est presque pareil, mais pas tout à fait. Et donc Monsieur Vaudable a été sollicité par mon père avec tout un tas de certificats qui étaient d'ailleurs plus ou moins vrais, hein, faits par des amis de mon père pour qu'il veuille bien m'employer. Alors rentrer chez Maxime à l'époque, c'était pas du tout évident, je n'y croyais pas, mon père non plus, et c'est arrivé. Alors je suis arrivé à Paris avec ma vieille de chevaux. Et j'ai donc commencé mon apprentissage chez Maxime. Quand je parle d'apprentissage, ça n'était pas en cuisine, parce que ça n'a jamais été mon fort, je le confesse aujourd'hui, mais bon, les gens qui me connaissent bien le savent. Mais je faisais la suite, qu'on appelle, c'est-à-dire que je portais des plats qui partaient de la cuisine clochée, Il y avait plusieurs étages et on montait jusqu'au second pour faire cette formation. Ça n'a pas été inutile parce que ça m'a permis de découvrir des choses merveilleuses. Il n'y avait pas d'iPhone à l'époque pour faire des photos, mais tous les soirs, on avait le tout Paris qui était là. Et Dieu sait que mon premier livre aurait été... trois fois plus important si j'avais eu une preuve matérielle que j'avais.
Si vous aviez eu un iPhone à l'époque. Absolument. Et là, on parle du début des années 70.
Alors, tout à fait.
Plus, une grande époque, ouais, où les gens sortaient beaucoup. Et,
absolument.
Et ouais, surtout, Maxime était l'endroit à la mode dans ces années-là.
Voilà, c'était des dîners dansants. Puis en plus, le jeudi, on avait le Maxime Business Club qu'on appelait. Et donc, une fois que j'ai fait le tour, si vous voulez, de cette grande maison, j'ai eu envie, et là c'est peut-être ma formation, comme j'avais appris l'anglais, qui m'a poussé à le faire. Monsieur Vaudable a eu la gentillesse de me recommander un collègue londonien, le Savoy Hotel, qui cherchait quelqu'un qui parle bien l'anglais pour devenir demi-chef. Donc je gagnais, si vous voulez, je parle en salle, hein, je ne parle pas en restant en cuisine. Et je me suis donc retrouvé à Londres, où je suis resté pendant pratiquement un an, avec...
Donc très belle expérience.
Très belle expérience, dans un hôtel merveilleux. Hein. Alors là, j'en ai connu deux, j'ai eu le Savoy et j'ai fait beaucoup de remplacements au Dorchester Hotel, qui sont des palaces qui sont toujours d'actualité. Et j'avoue que là, j'ai vécu les plus belles années de ma vie. Alors, je ne veux pas dire que le mariage n'est pas important dans la vie, puisque c'est ça qui vous permet officiellement de faire des enfants, etc., etc. Mais c'est toute ma jeunesse, quoi. C'était l'époque, je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y avait pas de sida, on pouvait... au niveau sexuel, on avait une liberté pratiquement complète. Et voilà, il suffisait de ne pas faire trop de bêtises. D'ailleurs, on m'avait dit, dès l'entrée, on m'avait dit ici, petit, je me rappelle, la personne qui m'a reçu chez Maxime a dit, écoute, ici, pas de drogue, pas de conneries. Hein. Il employait des mots que je connaissais. Et tu verras, tout se passera bien. C'est ce que j'ai essayé de faire.
Donc, après l'année à Paris, puis l'année à Londres, là, vous avez quand même 2 ans de formation intense et importante dans des maisons en plus réputées. C'est à ce moment-là que vous revenez chez vos parents pour reprendre la suite ou il y a un passage toulousain entre-temps ?
Non, il n'y a malheureusement, j'allais dire, pas de passage toulousain parce que Toulouse ici, c'est ma ville de cœur. J'ai tellement passé de bons moments. Non, je vais vous dire comment ça s'est passé. Vous l'avez dit, il n'y avait pas de portable, etc. Mais je prenais l'habitude, 2 fois par semaine, d'aller dans une cabine peinte en rouge, hein, comme vous savez, en Angleterre, Red Box, pour parler à mes parents, surtout à ma grand-mère, mais à mes parents. Et j'ai appris par ma grand-mère que mes parents n'osaient pas me demander de rentrer pour un très gros mariage. Je ne veux pas citer la famille qui se mariait ce jour-là, mais c'était déjà important. Et mes parents, prenant de l'âge, pensaient que ce serait une bonne chose que je demande un congé pour...
C'est un mariage qui se passait dans l'auberge de vos parents.
Exactement.
D'accord.
Exactement. Et mes parents souhaitaient, bien entendu, que je sois là parce que, bon...
Pour les aider, pour les seconder.
Pour les aider, etc. En fait, c'est moi qui ai... peut-être j'ai fait le constat inconsciemment de dire, après tout, maintenant, il faudrait un peu... revenir voir son clocher, quoi. Et c'est ce que j'ai fait. Je leur ai dit, au fait, vous avez tel jour, telle date, là, mariage ? Oui, ah bah bon, oui, c'est grand-mère qui me l'a dit. En fait, je suis jamais reparti. Je suis rentré avec ma 2 chevaux, ah ben, un jour de voyage, hein, même un jour et demi presque. Et je suis jamais reparti. Je suis jamais reparti. Je me suis excusé auprès du Savoy, mais bon, vous savez, le Savoy, il n'attendait pas après moi. Et j'avoue que là, mes parents m'ont dit, écoute petit, maintenant, nous, on commence à être âgés. Ça se passait bien avec mon frère au niveau du partage, parce que souvent, il y a des problèmes familiaux au niveau de l'argent. Et là, donc, je suis jamais reparti.
Donc, vous reprenez l'entreprise familiale.
En 75, oui.
En 75, vous avez donc 25 ans. Vous n'avez pas encore rencontré votre épouse qui, disons-le maintenant, va quand même travailler toute sa vie avec vous dans l'auberge familiale, et ça on peut le préciser, parce que vous l'avez tenu 40 ans, 45 ans je crois.
Oui.
Et... donc il faut aussi saluer votre épouse qui a quand même passé toute sa vie avec vous dans cette auberge. Mais quand vous la reprenez, l'auberge, donc vous n'avez pas encore votre épouse à vos côtés et vos parents vous la laissent avec 19 chambres.
Exactement, exactement. Je porterai ce nombre en fin de carrière à 75, mais ça me fait très plaisir que vous parliez de mon épouse parce que ce serait vraiment un oubli impardonnable.
Bien sûr.
Si je ne parlais pas d'elle. Parce qu'on dit souvent que derrière un homme, il y a une femme.
Oui, comme disait un de mes amis, voire plusieurs.
Absolument. Mais je vais vous raconter l'anecdote où j'ai rencontré mon ariégeoise de femme, puisqu'elle était à Paméenne. C'était quelqu'un qui venait de Pamiers, donc, et je l'ai rencontré à Toulouse, dans ma ville, au Mikado. Hein, je ne sais pas si vous voyez, c'était au premier, à côté de l'ancien cinéma. Et donc, nous nous sommes connus là, et puis depuis, nous sommes toujours ensemble. Après, elle m'a fait de merveilleux enfants. Et encore une fois, je la remercie.
Elle vous a secondé et accompagné.
Absolument.
Et, puis, et conseillé, certainement.
Et conseillé. Et puis, bon, je vais vous dire une chose, en m'excusant d'être un peu grossier, mais en salle, même les cons avaient droit à son sourire. Et ça, vous savez, à l'école hôtelière, on vous apprend à faire la cuisine, on vous apprend beaucoup de choses, mais on ne vous apprend pas à sourire. C'est quelque chose d'inné, le sourire. L'accueil, vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Et si vous vous forcez à faire quelque chose, ça dure qu'un temps. Mais finalement, vous allez vers un échec. Et ma femme, j'ai eu, allez, on va dire un coup de bol, appelez ça comme vous voulez, extraordinaire, puisque ça fait un moment que ça dure.
J'aimerais, on le sait, tous les gens qui connaissent Pierre Carayon et dans le métier, tout le monde vous connaît. On sait que vous avez reçu tout au long de votre carrière beaucoup de grands de ce monde, beaucoup d'hommes politiques, beaucoup d'acteurs sont venus manger et dîner chez vous. Vous n'étiez pas un hôtel multi-étoilé comme on peut voir maintenant les stars aller dans des 5 étoiles, etc. Pourquoi tous ces gens sont venus chez vous ?
C'est une question qu'on me pose souvent. Vous avez tout à fait raison de dire que ça n'était pas pour le confort ni pour la cuisine, même si on n'était pas mauvais, c'est pas ce que je veux dire. Mais quand vous recevez ce type de clientèle, effectivement, il faut des choses en plus. Alors, très humblement, je vais dire que ce qui nous a attiré énormément de monde, ça a été la route du sel. La route du sel, c'est quoi ? C'est une manifestation qui a lieu une fois par an, au mois de juillet, qui avait lieu. Ces derniers temps, ça s'est un petit peu disloqué, mais on reprenait le circuit historique du sel, puisque le sel était le seul moyen de conservation avec le fumage. Et donc, on part, ce sont des cavaliers qui partent d'Aigues-Mortes et qui vont dans le Massif central amener du sel. Et les organisateurs de cette route du sel, je fais un petit clin d'œil à Jean-Louis Bonnet, tenait et réussissait à avoir chaque année des têtes d'affiche. Alors les têtes d'affiche, il y en a plusieurs que vous connaissez évidemment. Il y a Michel Serrault, il y a Michel Galabru, il y a Bougrain-Dubourg, Mourouzi, pour les plus jeunes, ils ne connaîtront pas, mais Mourouzi, c'était le Jean-Pierre Pernaut de l'époque, hein, et j'en passe. Hein. Et donc, je me suis retrouvé avec des gens qui venaient, non pas pour Carayon, mais qui venaient parce que la route du sel passait par là. Alors, juste une petite anecdote sur Michel Serrault. La route du sel avait, paraît-il, il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque, ni de bug, mais c'était réservé une chambre chez Carayon. Et mon collaborateur m'a dit, mais écoutez Pierre, je ne trouve pas ce monsieur sur la liste. Donc Michel Serrault, il ne fallait pas le laisser partir. Alors j'ai gagné du temps, je lui ai offert une coupe, voire deux coupes de champagne, en le mettant face à la terrasse.
En sachant comment vous alliez vous organiser pour lui trouver une chambre.
Exactement. Et je dis à ma femme, écoute, il nous faut nous rattraper parce qu'on ne savait pas, au moment où je précise, on ne savait pas qui avait fait l'erreur, mais quelqu'un avait fait l'erreur, soit l'organisation de la route du sel, soit nous-mêmes. Donc je me suis dit très naturellement, écoutez, on va le prendre à la maison. Ma femme a été très gentille, elle m'a dit, bon, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut faire facilement. Et donc, elle a accepté. Alors, je vous dis pas la réaction de Michel Serrault, qui avec son accent parisien me dit, putain, je me suis tapé une journée de canasson, maintenant, s'il y a pas de piole, hein, ça va mal aller. Hein. Bon, troisième verre de champagne, ça allait déjà mieux. Je l'ai amené avec ma petite voiture décapotable à la maison. Là, il était ravi de voir ce village, etc. Je vous dis pas le repas qu'on lui avait fait, parce que je pense que s'il était vivant, il s'en souviendrait encore. Et donc, je dis avec malice, mais c'est la vérité, qu'il a couché dans le lit de ma belle-mère. J'ajoute de suite que ma belle-mère était absente. Hein. Mais c'est dans la chambre de ma belle-mère que Michel Serrault a été logé, si j'ose dire, en secours, pour essayer de rattraper l'erreur. Et le lendemain, je me suis levé très très tôt, après avoir très mal dormi, parce que, bon, hein, c'était pas évident, et je lui ai fait naligot, saucisse, riz d'agneau, mais il était ravi, il voulait tout acheter. Il était sur la terrasse en plein soleil, là, il était ravi vraiment de cette expérience.
Alors, malheureusement, une heure d'émission, c'est très court, et je suppose que vous auriez des dizaines et des dizaines d'anecdotes à nous raconter avec tous ces people que vous avez reçus tout au long de votre carrière dans cet hôtel, qui est resté s'appeler Hôtel de France pendant tout ce temps ?
Non, après un certain temps, j'ai décidé de reprendre le nom de mon grand-père Carayon. L'Hôtel de France a vécu, vive l'Hôtel Carayon.
D'accord. Ah, hein. Donc quand vous avez vendu il y a quelques années, ça s'appelait jusqu'à la fin Hôtel Carayon.
2018, oui, j'ai vendu en 2018.
Donc c'est quand même assez récent,
trois ans.
C'est l'époque où vous avez pris votre retraite.
Absolument, oui.
Toutes les anecdotes, on peut les retrouver dans le premier livre, oui. Parce qu'on va en parler tout de suite en troisième partie d'émission. Vous avez écrit 7 livres.
Absolument.
Depuis que vous êtes à la retraite. Oui. Et toutes les anecdotes de tous ces gens célèbres que vous avez reçus, on les retrouve dans vos livres avec toutes les photos, parce que là, après, on avait plus de moyens et plus de facilité de faire beaucoup de photos.
C'est surtout qu'il faut pouvoir prouver qu'on ne dit pas des bêtises, parce que c'est bien joli de dire j'ai touché la main à un tel, mais moi j'ai la preuve, c'est pas des montages photographiques, c'est la vérité.
C'était flatteur pour votre établissement de recevoir tous ces gens ?
Évidemment, évidemment. Et j'ai des gens qui s'en souviennent encore. Bon, l'anecdote avec notre ami Galabru qui venait manger avec nous, parce qu'il nous connaissait très bien à la fin. Il était natif de pas très loin, hein, à Vennes, les Bains, c'est juste aux frontières de l'Aveyron, du Tarn et de l'Hérault. Et c'est quelqu'un, la famille Galabru, qui venait manger après le service, c'est-à-dire vers 3h, pour pouvoir manger avec nous. Et donc, il y avait forcément des clients qui voulaient obtenir de Michel un autographe. Alors, bon, le premier, j'ai rien dit, le deuxième, j'ai rien dit, le troisième, j'ai commencé à dire, écoutez, laissez quand même manger Monsieur Galabru. Et là, je ne vais pas le refaire parce que je ne suis pas imitateur, mais je peux vous dire qu'il avait des réactions, il a eu une réaction merveilleuse que je me souviendrai toujours en disant, mais nom de Dieu, de nom de Dieu, Pierre, sans eux, je ne suis rien. Et il parlait de ses clients. C'est une famille, les Galabru, je connaissais aussi, que j'avais comme client son frère, qui était médecin, qui avait un pied-à-terre à Albi. Et c'est une famille qui, lui d'abord, comme de Funès, a été connu sur le tard. Et ils ont toujours eu la peur de manquer d'argent. Donc ils avaient un respect pour le public qui était absolument...
Oui, ils avaient conscience de ce qu'ils recevaient, de ce qu'ils donnaient et de ce qu'ils recevaient. Ouais. On est déjà à l'heure de notre deuxième pause musicale, Pierre. Et vous avez choisi en deuxième de nous faire écouter Dick Rivers. C'est faire un pont pour de bon, faire un pont pour de bon. Je connais mal Dick Rivers, c'est vrai, donc c'est un petit peu aussi quelque part une découverte. Mais vous, par contre, vous connaissez bien Dick Rivers. Vous pouvez m'en dire quelques mots ?
Ah, mais bien sûr, parce que Dick Rivers, il est peut-être né à Nice, Mais j'ai eu la chance, par mon ami Christian Selsé, qui était le président, qui est toujours d'ailleurs le président de son fan club, de l'avoir connu chez moi, dans ma discothèque que j'avais, que j'appelais La Descente. Et il était...
Elle était où, cette discothèque ?
Sous l'hôtel.
Sous l'hôtel, directement, d'accord.
Oui, absolument. Et il ne faut pas oublier qu'ils, avec Babette, ils ont vécu pas mal d'années entre Toulouse et Montauban. C'était un ranch, n'ayant pas peur des mots, puisqu'il était très amoureux de ce style d'habitation, avec des chevaux, etc.
Oui, ce style de vie, même.
Ce style de vie. Et donc, Dick Rivers, juste une anecdote pour finir. La première fois où je l'ai vu, la toute première fois, je l'ai confondu avec Eddie Mitchell. Et alors, ce que je ne savais pas, ça c'est Christian Selsé qui me l'a dit, c'est qu'ils étaient très fâchés. Alors, vous imaginez, quand il est arrivé et que je lui ai dit bonjour Eddie, je peux vous dire que je...
il n'a pas dû le prendre comme il fallait.
Tout à fait.
On écoute.
De ton visage à mon village, y a cette rivière qui coule toute la nuit. Entre tes yeux et les miens qui pleurent, y a ce fleuve qui s'amuse à nous séparer. Faire un pont pour te bond, lui donner le traverser pour t'embrasser, faire un pont pour te pond. J'ai essayé de naviguer vers d'autres cœurs, mais le tien chante si fort entre nous deux. Séparer, faire un pont pour te bond, lui donner ton prénom, le traverser pour t'embrasser, faire un pont pour te bond.
Merci pour ce choix, Pierre. C'est sympa d'entendre. Et puis, c'est vrai qu'on parlait en même temps que la chanson était diffusée. On parlait d'autres rencontres que vous avez pu faire tout au long de votre vie, notamment André Pousse. Vous nous évoquiez hors micro tout de suite André Pousse et tellement d'autres. Justement, c'est tellement d'autres anecdotes qu'on a envie d'écouter, mais qu'on ne peut pas parce qu'on est limité sur le temps. Vous avez écrit 7 bouquins, alors j'aimerais qu'on en parle, parce que c'est vrai, vous l'avez dit, en 2018, vous vendez cette entreprise, puisque aucun de vos enfants n'a voulu prendre la suite, et ça ne se discute pas, les choix de vie de chacun, c'est très personnel. Vous prenez donc votre retraite en 2018, vous vendez cette auberge qui a cependant été l'auberge familiale sur deux générations. C'est vos parents qui l'avaient créée ou ça remontait plus loin ? Ça remontait encore plus loin.
J'étais la quatrième, moi.
Vous étiez la quatrième génération, vous vendez en 2018 et à ce moment-là, qu'est-ce qui vous décide à venir à l'écriture, parce que vous en êtes quand même à votre septième livre. Et ça, j'aimerais qu'on l'évoque. Septième livre, alors attention, on ne parle pas de roman policier ou même pas de biographie à proprement parler. J'ai eu l'occasion de lire les sept. On est vraiment sur des souvenirs, mais des souvenirs qu'on a envie de connaître, qu'on dévore, hein, qui sont plein de bonne humeur, plein d'amitié, puisqu'on l'a dit, c'est un terme qui est très important pour vous. Et puis, presque, j'ai envie de dire, c'est presque historique, parce qu'on est sur un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
Tout à fait, tout à fait. Écoutez, j'avoue que, je le dis, peut-être que d'écrire à 70 ans, c'est la revanche du plaisir contre la vieillesse. Mais j'ai toujours eu ce désir d'écriture et quand il y avait des fêtes familiales, je me faisais un devoir, une espèce d'obligation de faire des poèmes. Alors évidemment, c'est pas de la poésie, les feuilles mortes, les qui tombent.
Oui, etc. On n'est pas sur du Baudelaire.
On n'est pas sur du Baudelaire, mais c'est toujours quelque chose qui m'a passionné. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de m'y intéresser, ça faisait partie de ce que j'aime. Vous voyez, par exemple, je vais vous raconter très rapidement, j'aime la lettre M parce qu'on la prononce M, et je déteste la lettre N parce qu'on la prononce N. Hein. J'essaie de jouer avec les mots, et c'est un petit peu ce qui fait ma spécialité. Alors, il y a quelqu'un qui m'a baptisé l'aubergiste slammer. Et ça me convient tout à fait.
Ça vous plaît comme surnom ?
Absolument, ça me va très bien. Sachant que ne confondons pas le slam, qui est quand même une poésie orale, hein, avec le rap, voilà, pardonnez-moi, parce que souvent, on me dit, mais qu'est-ce que c'est ce rap, etc. Non, moi je ne fais pas du rap, c'est pas du tout mon truc. Par contre, j'aime le slam, voilà. Et j'ai fait ces bouquins, je vous avoue que je suis très content, parce que c'est quand même une aventure, vous savez, financière, hein, financièrement.
Oui, parce qu'on doit le dire, vous vous auto-éditez.
Je m'auto-édite.
Et par choix.
Par choix, oui, parce que bon, je vais surtout pas dire du mal des libraires, parce que c'est eux qui me
vendent
mes livres.
Des éditeurs.
Et les libraires, ils prennent 30%, ce qui est tout à fait normal. Il y a le pas de porte, il y a l'électricité, il y a les salaires à verser, etc.
Bien sûr.
C'est les 30% des libraires, je trouve ça absolument normal. Par contre, c'est vrai que les éditeurs, ils prennent pas mal d'argent. Hein, et ça, moi, j'ai voulu sauter cette étape. Parce que j'ai pu le faire financièrement. Mais c'est sûr qu'un livre, surtout que j'ai eu la chance d'avoir le deuxième livre, mon deuxième ouvrage, a été primé deux fois par l'Académie du Languedoc, dont je fais maintenant partie. Il a été, en 2020, primé par le prix de poésie et par le prix du livre d'art. Alors pour moi, ça a été à la fois une surprise, et à la fois
une fierté.
Une fierté.
Bien sûr. Alors, on a dit qu'en 2010, vous aviez reçu la Légion d'honneur. Qui vous a remis la Légion d'honneur ?
C'est mon ami André Daguin. C'était mon deuxième papa. C'est pas faire insulte à mon père que de dire que j'avais deux papas.
Surtout que Monsieur Daguin, je pense que tout le monde sait qui est Monsieur Daguin et on sait que c'était un.
Oui. Et c'était.
C'était un homme de valeur.
Absolument. Il avait aussi remis à notre ami toulousain Lucien Vanel, que tous les Toulousains connaissent.
Bien sûr.
Juste une anecdote, cette soirée mémorable qu'on avait fait rue Fonvielle, quand Lucien Vanel dit à André Daguin tu tues un poulet, tu le cuisines mal, le poulet est mort pour rien.
Alors, j'adore. J'adore.
C'est un résumé assez compact. Non, j'aime beaucoup le personnage. Et puis, j'ai eu au niveau national la lourde responsabilité de le remplacer plusieurs fois dans des réunions importantes avec l'administration. Puisque je vous rappelle qu'à l'époque, nous avions un taux de TVA qui était à 19,6, hein, qu'on a fait baisser par nos manifestations, par notre action syndicale, notamment au sein de l'UMI. Et nous avions beaucoup de problèmes que nous avons essayé de régler. Et je voudrais avoir une pensée actuelle pour mes collègues, parce que je pense qu'ils ont été certainement, je parle des CHR, hein, café, hôtel, restaurant, ils ont été certainement la profession.
Oui, la plus impactée.
Qui a été la plus impactée par la
bien
crise.
Bien sûr, bien sûr. Voilà. Pierre, malheureusement, on arrive déjà à la fin de l'émission, mais je veux quand même, excusez-moi, on va déborder hein, de quelques minutes, mais ça me tient à cœur. On a dit que depuis que vous êtes à la retraite, vous vous êtes consacré à 7 livres différents que vous avez auto-édités, donc vous allez très vite, je vais vous donner les questions comme ça, vous pouvez y répondre très vite, nous dire déjà un... Où est-ce qu'on peut se procurer vos livres pour avoir plus de détails sur ce que vous nous avez évoqué depuis le début de l'émission, sur cette vie tellement riche et passionnante? Après, en plus des livres, j'aimerais que... Bon, c'est vrai, on n'a pas évoqué le fait que vous ayez maintenant, avec la retraite, un rôle qui, pour vous, est très important et on le comprend, celui d'être grand-père, bien
absolument.
Sûr. Et enfin, en dernier, j'aimerais que... vous nous évoquiez l'intronisation à l'Académie du Languedoc. Voilà. Je vous laisse répondre très rapidement à ces trois questions parce qu'on est un petit peu pris par le temps.
Oui, alors la première question, rappelez-moi.
Où est-ce qu'on peut se procurer
voilà.
vos livres ?
Alors la première question, à Toulouse, dans la, certainement une des meilleures librairies toulousaines, c'est chez Privat, hein, chez Privat que tout le monde connaît, qui appartient à un Aveyronnais d'ailleurs, mais bon, dans, je suis sans prétention dans toutes les bonnes librairies.
Je vais finir par croire qu'être Aveyronnais, c'est faire partie d'une secte.
Absolument, d'une diaspora, ça n'est pas péjoratif ni prétentieux, c'est la vérité. Mon rôle de papy, c'était votre deuxième question.
Absolument.
Alors mon rôle de papy, pour moi, il est primordial parce que ben, j'ai la chance d'avoir des petits-enfants qui sont en bonne santé.
On peut les saluer, donnez-nous les prénoms
oui,
de vos petits-enfants.
Oui, alors on a Gabin qui est le plus petit, qui a 4 ans. Nous avons ensuite Loulou, Louis, qui a 6 ans, et puis Alexandre qui a 7 ans. Alors le dernier a la particularité déjà d'être comme son père, son grand-père, pardon, son papou, puisqu'il m'appelle papou, bilingue, puisqu'il est russe d'origine et sa maman a eu la riche idée à la maison de ne parler que russe. Donc, à l'école, il parle
il
français.
Il a 7 ans et il est déjà
bilingue.
Vous avez 3 petits-enfants, donc.
Et 4. J'ai aussi une grande petite fille.
Donc, une petite fille et 3 petits
voilà,
garçons. Comment s'appelle cette petite ?
Elle s'appelle Claire.
Claire. Voilà. Alors, on salue vos 4 petits-enfants.
Merci.
Et puis, voilà, je voulais qu'on finisse quand même sur un sujet qui, je sais, a beaucoup d'importance à vos yeux. C'est l'intronisation à l'Académie du Languedoc.
Ben, je vous avoue que j'ai été surpris parce que je ne m'attendais pas du tout à cet honneur. Parce que quelque part, ça a été un petit peu comme ma Légion d'honneur lorsque j'ai eu cette primeur. J'ai de suite pensé à mes parents. J'ai remercié également mon épouse et j'ai été intronisé dans un château pas très loin de Toulouse, en grande pompe, avec tous mes collègues académiciens. Ce qui me donne d'ailleurs que des devoirs, plus que des droits. À savoir, c'est que j'essaie, à mon humble niveau, nous avons pratiquement une réunion tous les mois, mensuelle, tous les mardis, dans divers endroits de Toulouse. Et nous nous occupons de beaucoup de secteurs, que ce soit de la littérature évidemment, de la sculpture, de la peinture, de la musique même. Et chaque année, nous distribuons des prix. Alors évidemment, moi je ne peux plus concourir maintenant puisque je ne peux pas être jugé parti. Mais j'avoue que j'ai été très, très honoré de ça. Je vais vous raconter juste pour terminer l'anecdote. Lorsqu'on m'a remis, on m'a appris que j'étais académicien, j'ai dit tout simplement au quelqu'un qui était, je crois, de FR3 Toulouse, j'aurais dit, vous savez, introniser un aubergiste académicien, c'est un petit peu comme si vous donniez la Légion d'honneur à un rebouteux. Voilà, c'est quelque chose qui, j'ai rien contre les rebouteux, mais c'est pour vous dire que je ne m'y attendais pas et que je suis quand même très fier de l'avoir.
Alors, je cite, avant de rendre l'antenne, votre dernier livre, donc auto-édité, Pierre Carayon, « Mes années à l'endroit et celles à l'envers ». Pierre, j'aurais tellement encore de choses à vous demander. Ça passe trop vite. Vous avez une vie extrêmement riche. C'était un bonheur pour moi de vous rencontrer et de pouvoir passer ce moment avec vous. Je souhaite vous remercier. Je suis persuadée qu'il y aura encore plein de jolies choses à venir parce que vous n'êtes pas du style à perdre du temps et vous remplissez vos journées intensément et en plus avec du partage de cœur. Ça, on ne sent que ça dans vos livres et je pense qu'on le sent aussi à l'écoute de cette émission. J'aimerais que vous me donniez 3 mots, les valeurs les plus importantes pour vous, Pierre.
Ben d'abord, je voulais vous remercier parce que sachez que le plaisir fut partagé avec vous d'être là, Irène. Et puis, les valeurs, écoutez, d'abord la valeur travail, parce que c'est par le travail qu'on apprend beaucoup de choses. Le respect des autres, je crois qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut remettre à l'actualité. Et puis aussi, peut-être l'honnêteté. Qu'on soit, quand on se regarde dans une glace, qu'on puisse supporter, entre guillemets, le reflet ou disons l'image que le miroir vous renvoie.
Jacques Lavergne me pardonnera de dépasser autant une dernière, j'entends le générique, mais c'est pas grave, je vais parler dessus. Est-ce qu'il y a une question que vous auriez aimé que je vous pose, Pierre, que je ne vous ai pas posée très rapidement ?
Non, j'ai été très content. Vous avez été merveilleuse.
N'est-ce pas ? On va l'écrire, on va le publier.
Merci beaucoup.
Merci à vous, Pierre.
C'est moi qui vous remercie.
Au revoir.
Au revoir, merci.
Qu'elle te tire comme une biche à bout portant pépère.